Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment vit-on en Corée du Nord? Qu'est-ce qui anime ce peuple? L'ouverture diplomatique va-t-elle de pair avec des évolutions au quotidien? Nous rejoindrons à partir de 12h55 Pierre-Olivier François, le réalisateur de Corée, la guerre de 100 ans et de Pyongyang s'amuse, diffusé mardi sur Arte, et Patrick Morus, professeur à l'INALCO, auteur de La Corée dans ses fables. Mais d'abord, Tugan Sokiev, du Bolshoï au Capitole. Le chef d'orchestre russe est notre invité à l'occasion de la première édition du festival Les Musicales Franco-Russes à Toulouse, qui débuteront le 22 février jusqu'au 16 mars cette année. On le retrouve également le 17 mars à la Philharmonie de Paris pour une représentation d'Ivan le Terrible. Pour l'heure, le maestro est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Directeur de l'Orchestre National du Capitole de Toulouse depuis plus de 10 ans et directeur aussi, directeur musical du Théâtre du Bolshoï à Moscou. Bonjour Tugan Sokiev.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Après l'école, la direction d'orchestre du Mariinsky au Welsh National Opera, vous avez dirigé les orchestres de Radio France, celui d'Oslo, de Munich, l'orchestre royal aussi du Concertgebouw d'Amsterdam, l'orchestre symphonique de Boston, le Deutsches Symphonieorchester de Berlin. Vous étiez présent dans le monde entier et vous avez désormais, depuis à peu près 10 ans, un port d'attache, c'est Toulouse. S'attacher à un lieu, s'attacher à un orchestre, est-ce que c'est comme en amour, les histoires les plus longues sont toujours les plus intéressantes?
Pour moi, c'est toujours, ça reste l'histoire d'amour. Hein, parce que l'amour pour musique qui existe à Toulouse, d'abord entre l'orchestre et public, les mélomanes toulousains, ensuite entre l'orchestre et moi, parce que la relation reste toujours très très forte. Et en plus, à mon avis, ça développe, ça continue à développer. Et on est toujours, c'est comme première fois. Et c'est étonnant parce que j'ai commencé mon premier rencontre de l'Orchestre du Capitole de Toulouse, c'est 2003. Aujourd'hui, 2018, et on a le même sentiment, comme c'est jamais. On n'a pas de feeling, on dit routine. Mm-hmm. On utilise ces mots routine dans le monde musical. Pas du tout. Ça développe. On a plein de projets artistiques. On a fait quand même pas mal de développement aussi à l'orchestre. On a augmenté le nombre de musiciens. On a élargi le répertoire maintenant. Parce qu'à l'époque, l'orchestre est bien connu pour musique française. Aujourd'hui, dans le répertoire de cet orchestre, vous avez musique russe, vous avez musique contemporaine, vous avez musique allemande, baroque, classique, lyrique, évidemment. Donc, je suis très, très fier de mon bel orchestre français à Toulouse et tout ce qu'on a fait déjà ensemble.
Voilà, en 2003, quand vous avez joué ensemble pour la première fois, il paraît que ça a été un coup de foudre. Depuis, donc, la relation s'est un peu installée. Vous avez pris la succession de Michel Plasson à la tête de cet orchestre national du Capitole de Toulouse. On va écouter un extrait de la symphonie numéro 5 de Tchaïkovski que vous dirigez avec l'Orchestre national du Capitole et vous allez nous parler un peu des particularités de cet orchestre juste après.
Thank you.
Une symphonie enregistrée et éditée chez Naïve, sortie en 2008, Tougansou Kiev. Alors, quelle est la particularité de cet ensemble? Quelle couleur voyez-vous tout de suite apparaître quand vous évoquez votre orchestre?
Là, peut-être, musique de Tchaïkovski, ça représente de meilleure façon la particularité et spécialité de cet orchestre, parce que, vous savez, Tchaïkovski, même s'il est compositeur russe, il est toujours quelqu'un qui était capté, influencé beaucoup par musique et style européenne, et particulièrement français. Il est jamais avec Rimsky-Korsakov, Borodine, Moussorgski, c'est une, le grand 5, on dit toujours, qui concentrait plutôt sur vraie tradition de musique russe. Tchaïkovski, c'est quelqu'un qui adorait musique française. Donc, voyez tout de suite, on peut juger sur cette sonorité de l'orchestre français qui l'entre dans cette musique de Tchaïkovski tellement avec couleurs très riches, beaucoup de nuances, transparence, mais en même temps plein de couleurs. Je pense que c'est ça la spécialité de l'Orchestre de Toulouse. Ça veut dire pour avoir précision, sonorité de instrument à cordes très dense, très russe, mais en même temps l'harmonie, fameuse l'harmonie française qui donne cette énormément variété de couleurs.
Mmh. Ça, c'est aussi un peu votre tempérament à vous, Tougansou Kiev, d'aller chercher les affinités, les ressemblances plutôt que les différences entre la Russie et la France. C'est pas pour rien d'ailleurs que cette première édition du festival Les Musicales Franco-Russes s'appelle aussi L'âme en partage, et vous l'avez réellement. Vous prenez par exemple souvent l'exemple de Rimsky-Korsakov, que vous rapprochez de Ravel. Vous pensez vraiment, alors c'est vous qui allez chercher des couleurs communes, où il y a eu tout au long des siècles ces jeux d'influence aussi entre nos deux musiques et entre nos deux cultures.
Entre nos deux musiques, deux cultures, de l'histoire, de littérature aussi. Parce que les deux pays, relations qu'on a depuis longtemps, ça existe toujours. Ça, entre les peuples, entre les amateurs de musique, les amateurs de la culture, c'est jamais arrêté. Et je suis très ravi qu'aujourd'hui, c'est un rêve que j'ai eu pendant les derniers 5 ans, après mon travail à Toulouse. J'ai eu cette idée, comment on peut célébrer, comment on peut faire le fêter de cette relation forte, musicale, entre les deux pays. Et aujourd'hui, je suis très ravi que finalement mon rêve vienne d'être cristallisé, réalisé, à Toulouse, dans cette ville très très musicale, avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse, et l'orchestre du Bolchoï, avec lequel je travaille également maintenant depuis 5 ans.
Et on va y revenir. Vous restez un spécialiste du répertoire russe. En 2008, vous succédiez donc à Michel Plasson, qui aura dirigé l'orchestre du Capitole pendant 35 ans et installé une tradition de musique française. On l'entend, vous êtes en train de créer une sorte de couple mixte. Et dans un entretien, vous avez dit « Les Français semblent plus légers en surface, mais ils ont eux aussi beaucoup de force et d'esprit. La France a toujours agi par la force, avec la révolution, la guerre ou la grève. Il y a une forme d'extrémiste à l'œuvre entre les deux peuples, même si au premier regard, les Russes ont l'air plus fermés. » Sur ces partages de culture et le rôle que la politique peut trouver à l'intérieur, je vous propose d'écouter les mots du violoniste Isaac Stern en 1977.
Du point de vue de politique, je n'aime pas ces questions d'entrer dans les politiques et tout ça. Mais les politiques entrent dans nos vies tout le temps. Alors on doit au moins les comprendre. Et si on vit avec la musique, c'est-à-dire on vit avec une langue qui surpasse les niveaux de la société et les antipathies entre les grands pays. Je crois pas que les liens entre les artistes dans des pays différents peut changer les politiques des pays, mais ça peut influencer les peuples.
Ça ne peut pas changer la politique, mais ça peut influencer les peuples, vous diriez Tougansou Kiev comme Isaac Stern.
Je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est justement l'actualité d'aujourd'hui. Ça ne peut pas changer la politique, mais ça peut changer les peuples, et c'est les peuples qui font la politique. Mm. Je pense là, c'est vraiment... vous avez dit tout à l'heure, par rapport que les Français, ils sont légers, mais je pense toujours les Français sont mal jugés. Parce que dans, moi, je vois, ce que je vois, moi, avec, après 15 ans de travail avec les, avec l'orchestre français, qui est le musicien français en général, le peuple français, vous avez la même profondeur de l'âme que les Russes. C'est pour ça, le slogan de mon premier édition de le musical franco-russe, c'est l'âme en partage. C'est très important parce que, justement, la musique que vous avez, la musique française qui existe, ça ne peut pas venir que de l'âme.
Et la greffe a réussi, c'est-à-dire votre arrivée à vous, chef d'orchestre russe, à Toulouse, a fonctionné. Est-ce qu'inversement, la greffe prend dans l'autre sens? Quand vous faites, vous, partager aussi le répertoire français en Russie, en amenant notamment l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et Berlioz à Moscou pour son Requiem, avec le chœur russe pour une messe liturgique, c'était une réussite? S'est compris?
C'est réussi. D'abord, on commence le festival 22 février avec Grand Berlioz, Damnation. On termine par l'opéra russe Rimsky-Korsakov. À Bolchoï, j'ai déjà présenté le Requiem du Berlioz, Damnation de force de Berlioz, et on a travaillé comme fou avec l'orchestre du Bolchoï pour justement comprendre cette sonorité de Berlioz, le style de musique française, couleur de musique française. Et je dois dire que les musiciens russes, ils ont adoré travailler sur musique française.
Tous ces allers-retours, de tout cela est donc née l'idée des musicales, ce festival franco-russe. Parmi les artistes invités cette année, il y aura Sandrine Pio, Karine Dehaye, Sol Gabetta, Bertrand Chamaillou et tant d'autres. L'année Berlioz, vous l'évoquiez en ouverture du festival, la Damnation de Fausse sera jouée, que vous dirigerez. Ce sera vendredi, vous l'avez déjà donné en 2010. On va écouter un extrait de cette Damnation, un extrait de l'acte 1, scène 1, mais pas sous votre baguette parce qu'on n'a pas d'enregistrement encore, mais avec Charles Munch, que vous aimez bien, je crois, hein, qui
c'est
est
quelqu'un
un
qui
grand
j'adore
pour vous. Voilà, on va écouter son interprétation de la Damnation de Fausse de Berlioz.
Thank you.
Bye bye, le vieil hiver, voici venu le printemps. Tugan Sokiev, Charles Munch à la direction avec l'Orchestre Symphonique de Boston. Berlioz, donc, en ouverture. C'était important pour vous d'ouvrir avec un compositeur français cette saison?
C'est très important pour moi. D'abord, on est en France, on est avec l'Orchestre du Capitole de Toulouse, l'Orchestre français. En plus, Berlioz, moi j'estime quelqu'un qui voyait ça, par exemple, l'ouverture de Damnation de Faust. Ça m'a semblé tellement romantique. À l'époque où le Berlioz, il a presque croisé Beethoven. Donc son courage, son demande pour changer les choses, de inventer les instruments, elle est presque révolutionnaire en musique. Donc moi, j'admire Berlioz pour son courage musical, pour son courage de compositeur. Et il reste toujours parmi mon compositeur préféré.
Et dans ce courage, il y a notamment pour lui aussi le fait d'écrire ses opéras, trois principalement, dont les Troyens, œuvre monstre. Berlioz, qui n'a pas toujours été bien accueilli avec sa Damnation de Faust, qui a mis du temps avant de se faire connaître et de s'installer. Peut-être pour vous, est-ce que ça a été la même chose pour l'opéra? Vous venez quand même plutôt de la symphonie. Est-ce que l'opéra est entré très vite dans votre vie, de manière très complémentaire avec la symphonie?
Toujours, pour moi, l'opéra, c'est, le monde de l'opéra, c'est également important. Depuis mon travail au théâtre de Mariinsky, et maintenant comme directeur musical de théâtre du Bolchoï à Moscou, l'opéra pour moi c'est quelque chose qui est également important comme répertoire symphonique, avec d'ailleurs avec l'Orchestre du Toulouse, on a toujours on a présenté toujours opéra version concert, semi-stage, on imaginait toujours de faire ça, et c'est l'opéra pour c'est l'opéra qui entre dans le monde symphonique, et c'est philosophie symphonique qui entre dans la mentalité de l'opéra.
Qu'est-ce que les chanteurs vous ont appris?
Respiration. Je pense que la chose principale, ce que nous, les musiciens, on a appris pendant le travail avec les chanteurs, c'est respiration. Il faut que la musique respire. Et quand on joue la symphonie de Brahms, au Beethoven, au Tchaïkovski, on parle toujours de respiration. Il faut que musique, elle vive. Pour être vivant, vivre, il faut respirer.
Ça vaut pour les chanteurs comme pour les instruments?
C'est ça. Et j'utilise toujours cette approche de quelque chose de symphonique, l'architecture de symphonie pour l'opéra, et contraire, quelque chose de théâtral pour symphonie. Ça veut dire, dans symphonie, il a toujours des images, il a toujours des caractères, il a toujours un relief émotionnel qui vient de l'opéra, qui vient de théâtre.
Alors vous allez aussi reprendre le Ivan le Terrible, cet opéra épique en trois actes de Rimsky-Korsakov, parce qu'il en existe plusieurs versions dans le cadre de ce festival. Vous le donnerez aussi à entendre à la Philharmonie de Paris par la suite. Lui, c'est le premier à avoir fait du premier empereur de toutes les Russies une figure d'opéra bien avant Prokofiev. En quoi est-ce un chef-d'œuvre pour vous, cette version d'Ivan le Terrible?
Tout d'abord, c'est Rimsky-Korsakov qui vraiment lançait, qui commençait la grande école de l'opéra russe. Ça veut dire l'opéra russe qui est basé sur le racine folklorique. Parce que le Rimsky-Korsakov, il a toujours utilisé une mélodie folklorique très très russe dans son opéra. En plus, vous avez des personnages comme Ivan Terrible qui reste toujours un personnage très, très mythique, très mal connu, même en Russie. Et je pense, mais les noms de cet opéra, par contre, ça s'appelle la Pskovitaine. On dit en Russie, Pskovitaine, ça veut dire la fille qui habite à Pskov. Ici en France, on va présenter cet opéra comme Ivan le Terrible, parce que en 1909, ici à Paris, Serge Diaghilev, il a présenté cet opéra comme Ivan le Terrible. Donc, si vous voulez, c'est un peu hommage aux saisons russes. Ici, c'est 100 ans depuis première présentation de cet opéra à Paris.
Et là, double exercice d'équilibriste, vous allez diriger en même temps le chœur du Bolchoï.
Le chœur du Bolchoï, l'orchestre du Bolchoï, la distribution du Bolchoï. On vient vraiment, c'est l'équipe de Bolchoï qui va venir d'abord à Toulouse et après pour Philharmonie de Paris, ici.
Alors, parlons-en un petit peu du Bolchoï. Vous avez été nommé directeur musical en 2014 et ce n'est pas une sinécure, on imagine, le Bolchoï. Scandale, polémique. Rapide retour sur les faits.
Le Bolchoï est au cœur de Moscou. On dit aussi parfois qu'il est le cœur de Moscou depuis 237 ans. À deux pas de la Place Rouge et du Kremlin, non seulement temple de la danse et de l'opéra, c'est aussi un lieu politique, un lieu de pouvoir. C'est pour cette raison que Sergueï Filine, directeur artistique du Bolchoï, ancien danseur étoile, était considéré comme un homme important. Dans cette entreprise de 3500 personnes, il régnait sur le monde de la danse. Et cela lui a valu bien des jalousies et aussi la haine d'un danseur à qui il doit d'être devenu quasiment aveugle. Mais le Bolchoï, c'est aussi la meilleure école de ballet du monde, des danseurs, un chœur, des orchestres, des chanteurs réputés. D'ailleurs, lorsqu'on se tourne vers l'une des grandes voix du Bolchoï, Piotr Migounov, il affirme qu'il faut garder la tête froide car il n'y a pas que l'argent dans la vie, même dans la vie d'un artiste au Bolchoï.
Le
Bolchoï, pour les chanteurs russes, ce n'est pas seulement ce qu'il y a de meilleur, c'est aussi une chose sacrée. Il suffit d'apparaître ici, sur cette scène, et on peut s'arrêter. Chanter au Bolchoï et mourir, un peu comme on dit ici, voir Paris et mourir.
Bon, gardez la tête froide, assurément, ce sera aussi sûrement votre direction, Tougan Sokiev. Là, on est en 2013, quand on entend ce sujet de nos confrères de France Inter. Un an après, donc, vous acceptez cette proposition. Quelles conditions avez-vous posées pour prendre la direction musicale du Bolchoï?
Justement, mon arrivée à Bolchoï, c'était après cet avènement qu'on vient d'écouter. Je dois dire que je suis arrivé avec l'équipe complètement différent. Je suis très très content qu'aujourd'hui directeur général de Bolchoï, monsieur Vladimir Ourine, qui dirige cette maison depuis juillet 2013, ensemble, on a réussi de changer complètement d'esprit de cette maison qui, pendant certaines périodes, passait le temps un peu difficile. Mais là, actuellement, la maison de Bolchoï est on travaille que pour objectifs et projets artistiques. Le ballet qui continue à développer, les voix, jeunes voix qui en cherchent, le talent lyrique qui en cherche toujours. Et depuis 5 ans maintenant, on n'a aucune difficulté. Le nouvel qui sort de Bolchoï, c'est qu'un nouvel artistique. Mmh. Et ça, c'est un grand réussite de l'équipe de M. Ourine. Qui travaille avec de façon très très intime, l'équipe,
c'est l'esprit très étroite.
Donc c'est très important. Et depuis maintenant 5 ans, on n'a qu'une nouvelle artistique qui sort de Bolchoï.
Et c'est une institution, le Bolchoï, connue dans le monde entier, avec aussi ses traditions, un héritage porté par ses chanteurs, ses chefs d'orchestre. Vous avez été formé en Russie par Ilya Musine et puis Yuri Temirkanov. Il y a une école russe de la direction d'orchestre. Il y a vraiment une école du geste particulière, Tougan Sokiev.
Il a vraiment école russe de direction d'orchestre qui existe. Je viens de Saint-Pétersbourg, la grande école de direction d'orchestre de Saint-Pétersbourg, fameuse Ilya Moussine. C'est pour ça que c'est un parti de musical franco-russe. Ça va être en académie de direction d'orchestre. Et pour moi, c'est très important parce que la transmission pour l'avenir, pour les jeunes chefs d'orchestre de l'avenir, ici en France, aujourd'hui, en France, on n'a jamais eu l'école de direction d'orchestre et je rêve qu'un jour, on va vraiment créer l'école de direction en France.
Mais vous avez un peu ouvert la voie, hein, puisque vous avez créé votre académie de direction d'orchestre à Toulouse, des jeunes chefs qui pourront d'ailleurs s'essayer dans le cadre de ce festival, en première partie des concerts. Sacrée pression pour eux, pour ceux qui ont été sélectionnés à entendre donc dans le cadre de ces musicales franco-russes. On n'a pas évoqué longuement cette question de la transmission qui est très importante pour vous, mais transmettre, c'est aussi, par exemple, enregistrer, comme vous l'avez fait, une version de Pierre et le Loup pour mettre dans l'oreille des auditeurs la musique très jeune. C'est important, c'est formateur pour eux.
C'est formateur, c'est éducatif. Aujourd'hui, je pense, notre objectif comme chef d'orchestre, comme le musicien qui existe aujourd'hui, c'est d'être sûr que dans l'avenir, dans 20 ans, dans 30 ans, on a vraiment le public pour musique classique, mais il faut nourrir, il faut développer.
Il faut
éduquer. Ouais.
Et à Toulouse, le public est mélomane ?
Ah, très mélomane. Très. On adore, j'adore le public toulousain.
Merci beaucoup à vous, Tougan Sokiev, d'avoir été avec nous. Un autre point important à voir dans ce festival, je le signale pour ceux qui nous écoutent, à Toulouse, ce sont les ciné-concerts, parce qu'ils représentent un des points forts de ce festival que vous avez créé. Le fonds de cinéma russe de la Cinémathèque de Toulouse est l'un des plus importants en Europe, le deuxième, je crois, après
c'est
Moscou.
C'est vrai, on va présenter Babylon de Shostakovich. C'est avec ce film et joué avec l'orchestre de Capitole.
Et ça doit être magnifique. Et tout ça, ce sera entre le 22 février et le 16 mars à Toulouse, donc dans le cadre du festival Les Musicales Franco-Russes. Allez vite jeter un coup d'œil sur le programme. On vous retrouvera pour les Parisiens le 17 à la Philharmonie de Paris avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse. Merci beaucoup à vous.
Merci beaucoup.
Merci.